Chapitre 13. Qu'est-ce que tu penses de Tessa, Léonie ? Demanda Bobby quelques minutes plus tard alors qu'il retournait au QG. Elle ment comme elle respire, répondit Didi avec humeur. Elle avait l'air sûre d'elle-même dans ses réponses. Je t'en prie, pour un peu j'aurais cru qu'elle se méfiait de la police. Pourtant, à part notre taux d'alcoolisme, de suicide et de violence conjugale, on a tout pour plaire, non ? Didi grimaça, mais elle comprenait ce qu'il voulait dire. Les agents des forces de l'ordre n'étaient pas exactement des parangons d'équilibre personnel. Beaucoup d'entre eux avaient été à rude école dans leur jeunesse, et la plupart soutenaient que c'était nécessaire pour patrouiller dans ces rues. « Elle a changé de version, » dit Didi. « J'avais remarqué. Tout à l'heure, elle avait tué son mari et ensuite découvert la disparition de sa fille, et maintenant, elle a commencé par découvrir la disparition de Sophie avant de finir par tuer son mari. » « La chronologie varie, mais le résultat est le même. Dans un cas comme dans l'autre, l'agent Léonie a été tabassée et la petite Sophie a disparu. » Didi n'était pas d'accord. « Une incohérence sur un détail oblige à remettre en cause tous les autres. Si elle a menti sur la chronologie, quelles autres parties de son histoire sont fausses ?»« Qui a menti, mentira, » souffla Bobby. Elle jeta un regard vers lui et ses mains se crispèrent sur le volant. L'histoire larmoyante de Tessa avait touché Bobby. Il avait toujours eu un faible pour les demoiselles en détresse. Alors que la première impression de Didi sur Tessa Léonie avait été la bonne. Jolie et vulnérable, donc une épreuve pour ses nerfs. Didi était fatigué. C'était la fin de soirée et son nouveau corps exigeant réclamait son lit. Au lieu de ça, Bobby et elle rentraient à Roxbury pour la première réunion de la cellule d'enquête. Les aiguilles tournaient toujours. Les médias avaient besoin d'un communiqué. Le procureur exigeait un état de l'enquête. La hiérarchie voulait juste que le dossier d'homicide soit bouclé et l'enfant disparu retrouvé tout de suite. Autrefois, Didi aurait mis 6 cafetières en route et englouti une demi-douzaine de beignets pour tenir toute la nuit. Aujourd'hui, elle était armée d'une nouvelle bouteille d'eau et d'un paquet de biscuits secs. Il n'arrivait à rien. Elle avait envoyé un texto à Alex en sortant de l'hôpital. « Pas là ce soir, désolé pour demain. » Il avait répondu « Vu les infos, bonne chance. » Pas de culpabilisation, pas de jérémiade, pas de récrimination. Juste un soutien sincère. Son message lui fit monter les larmes aux yeux, ce qu'elle mit sans hésiter sur le compte de sa grossesse parce qu'aucun homme ne l'avait fait pleurer depuis au moins 20 ans et que ce n'était certainement pas maintenant qu'elle allait commencer. Le regard de Bobby n'arrêtait pas d'aller et venir entre elle et la bouteille d'eau qu'elle trimbalait partout. S'il continuait, elle allait lui renverser le contenu de la dite bouteille sur la tête. L'idée l'amusa et le temps qu'il trouve une place de parking, elle était presque remise. Bobby prit une tasse de café serré et ils montèrent à la brigade criminelle. Didi et ses collègues avaient de la chance. Le commissariat central de Boston n'avait qu'une 15aine d'années et si son emplacement continuait à susciter la polémique, le bâtiment lui-même était moderne et bien entretenu. Les bureaux de la brigade criminelle faisaient moins New York Police Blues que siège de compagnie d'assurance. Des cloisons judicieusement disposées délimitaient des espaces de travail lumineux. Les larges meubles classeurs en métal gris étaient recouverts de plantes vertes, photos de famille et gadgets personnels. Ici, une main en mousse pour encourager l'équipe des Red Sox, là, une bannière aux couleurs des Patriots. La secrétaire avait un penchant pour les pots pourris à la cannelle et les enquêteurs une passion maniaque pour le café, si bien qu'il flottait même une bonne odeur dans ses bureaux. Un mélange de cannelle et de café qui avait suggéré à un petit nouveau de surnommer l'accueil du service Starbucks. Comme souvent dans la police, le surnom était resté et la secrétaire avait maintenant quantité d'autocollants, serviettes et autres gobelets Starbucks disposés sur son comptoir, ce qui avait déconcerté plus d'un témoin venu faire une déposition. Didi trouva son équipe et le coordonnateur de chaque groupe d'enquête déjà rassemblé dans la salle de réunion. Elle passa en bout de table, à côté du grand tableau blanc qui allait leur servir de bible dans les jours à venir. Elle posa sa bouteille, prit un feutre noir et en avant. Marche. Les recherches pour retrouver Sophie Léonie étaient la priorité absolue. Le numéro spécial n'arrêtait pas de sonner, et il avait permis de recueillir une vingtaine de pistes que des agents étaient en train de creuser en ce moment même. Rien de décisif pour l'instant. L'enquête systématique menée auprès des voisins, des commerçants du quartier et des cliniques de la ville avait abouti à peu près au même résultat. Quelques pistes, mais rien de décisif pour l'instant. Phil avait fait des recherches sur les antécédents de la nounou de Sophie, Brandy Ennis, qui en était ressortie blanche comme neige. Entre ça et l'entrevue que Didi et Bobby avaient eue avec elle, il leur semblait qu'ils pouvaient la rayer de la liste des suspects. Les premières vérifications sur le personnel administratif de l'école et sur la maîtresse de Sophie n'avaient allumé aucun voyant rouge. Ils allaient maintenant s'attaquer aux parents. L'équipe vidéo avait visionné 75% des images fournies par les diverses caméras situées dans un rayon de 3 km autour de la résidence des Léonie. Pour l'instant, aucune trace de Sophie, Brian Derby ou Tessa Léonie. Ils avaient élargi le champ de leurs recherches à la GMC Denali Blanche de Brian Derby. Dans la mesure où le laboratoire de la police scientifique avait conclu qu'un cadavre avait très certainement séjourné à l'arrière de la voiture de Derby, reconstituer les 24 dernières heures de la Denali était leur meilleure piste. Didi affecta deux enquêteurs à l'examen des relevés de cartes de crédit pour voir s'ils pouvaient déterminer à quand remontait le dernier plein d'essence. En se fondant là-dessus, et sur le nombre de litres qui restaient dans le réservoir, ils pourraient en déduire la distance maximale que Brian Derby avait pu parcourir avec un cadavre à l'arrière de sa voiture. Ces deux enquêteurs vérifieraient également si des amendes pour stationnement ou excès de vitesse, voire des traces de passage au péage avec abonnement, ne pourraient pas les aider à localiser la Denali entre le vendredi soir et le dimanche matin. Enfin, Didi communiquerait certains détails sur la Denali à la presse afin d'encourager les témoins oculaires qui auraient de nouvelles informations à se manifester. Phil accepta de se renseigner sur toutes les propriétés susceptibles d'appartenir à Brian Derby ou à un parent. Ses premières recherches sur la famille n'avaient rien révélé d'alarmant. Ni arrestation, ni mandat en cours au nom de Brian Derby. Quelques amendes pour excès de vitesse réparties sur les 15 dernières années, mais à part ça, il semblait respectueux des lois. Il travaillait dans la marine marchande, depuis 15 ans, pour la même entreprise, ASSC. Il avait une hypothèque de 200 000 $ sur la maison, un emprunt de 34 000 $ pour la Denali, 4 000 $ de prêt à la consommation et plus de 50 000 $ sur son compte en banque, donc la situation financière n'était pas mauvaise. Phil avait également pris un premier contact avec l'employeur de Brian Derby qui avait accepté un entretien téléphonique le lendemain matin à 11 h. Au téléphone, Scott Hale avait exprimé sa stupeur devant la mort de Derby et son incrédulité totale à l'idée que celui-ci ait pu battre sa femme. Consterné de la disparition de Sophie, il allait aussi demander à l'ASSC d'abonder la somme actuellement offerte en récompense. Didi, qui avait écrit en haut du tableau « Brian Derby, battait-il sa femme ?», fit une croix dans la colonne « Non ». Son autre collègue, Neil, leva alors la main. Il voulait une croix dans la colonne « Oui ». Il avait passé la journée à l'hôpital où il avait saisi le dossier médical de Tessa Léonie. Celle-ci n'avait pas eu d'accident à répétition, mais sa seule hospitalisation d'aujourd'hui avait permis de constater de multiples lésions remontant à des périodes différentes. Tessa Léonie présentait des ecchymoses au niveau du thorax, sans doute un incident remontant à au moins une semaine. « La chute dans les escaliers !» répliqua Didi en levant les yeux au ciel. Le médecin avait également noté qu'il craignait qu'une côte fracturée avait mal consolidé en raison de soins inadaptés. Ce qui confirmerait les propos de Tessa. Elle ne cherchait pas d'aide extérieure et faisait face toute seule aux conséquences de chaque passage à tabac. Outre sa commotion cérébrale et sa fracture de l'os zygomatique, son dossier énumérait un grand nombre de contusions, y compris une ecchymose en forme de bout de chaussure de sécurité. Est-ce que Brian Derby a des chaussures de sécurité à bout métallique ? Demanda Didi avec animation. « Je suis repassé chez eux et j'en ai emporté une paire, » dit Neil. « J'ai demandé à l'avocat si on pouvait comparer les chaussures à l'ecchymose sur la hanche de Léonie. Il estime que ce serait une intrusion dans sa vie privée et exige un mandat. »«
Une intrusion dans sa vie privée ?» railla Didi. « C'est le genre de découverte qui l'aiderait. Ça montrerait qu'elle était régulièrement maltraitée et ça lui éviterait de prendre 20 ans ou perpète. »
Il ne le conteste pas, il dit juste que le médecin lui a ordonné le repos, donc il veut attendre qu'elle soit remise de sa commotion cérébrale.
Ben voyons. À ce moment-là, le bleu aura régressé. On aura perdu la possibilité de faire des comparaisons et elle aura perdu un moyen de confirmer sa version. Qu'il aille se faire voir, l'avocat ! Demande un mandat. Exécution.
Neil était d'accord, mais ça allait devoir attendre le milieu de matinée parce qu'il commencerait sa journée chez le légiste pour l'autopsie de Brian Darby. Celle-ci était désormais programmée à 7h du matin parce que Tessa Léonie réclamait qu'on lui rende le corps de son mari au plus tôt, afin de prendre ses dispositions en vue de funérailles convenables.
« Pardon !» s'exclama Didi.
« Je ne rigole pas. Son avocat a appelé le légiste cet après-midi pour savoir quand Tessa pourrait récupérer le corps. Ne me demande pas. »
Mais Didi dévisageait tout de même le rouquin filiforme. La qualification juridique du décès par balle de Brian Darby reste à déterminer. Évidemment que le corps doit être autopsié, et Tessa le sait pertinemment.
Elle tourna son regard vers Bobby.
« On vous apprend le béaba dans la police d'État, non ?»
Bobby fit mine de se gratter la tête. « Voyons, il case 90 cours dans 25 semaines de formation et on serait censé connaître les bases d'une enquête en sortant de l'école. »
Alors pourquoi demander qu'on lui rende le corps? Pourquoi même passer ce coup de fil?
Peut-être qu'elle pensait que l'autopsie était déjà faite, avança Bobby.
Peut-être qu'elle a cru qu'on lui ferait une fleur, intervint Neil. Elle est policière, peut-être qu'elle a cru que le légiste ferait droit à sa demande et lui rendrait le corps de son mari sans examen post-mortem.
Didi se mordit la lèvre. Elle flairait l'entourloupe. Jolie et vulnérable ou pas, Tessa Léonie était douée d'un grand sang-froid, étonnamment lucide quand le besoin s'en faisait sentir. Si Tessa avait passé ce coup de fil, il y avait forcément une raison.
Didi se retourna vers Neil. Qu'a répondu le légiste à Léonie?
Rien. C'était à son avocat qu'il parlait, pas à Léonie. Ben lui a rappelé qu'une autopsie était nécessaire, ce que Cargill n'a pas nié. D'après ce que j'ai compris, ils se sont entendus sur un compromis. Ben fera l'autopsie à la première heure pour que le corps de Darby soit rendu au plus vite à sa famille.
Donc, l'autopsie est avancée, dit Didi d'un air songeur. Et le corps sera rendu plus tôt. Quand l'auront-ils?
Après l'autopsie, il faudra qu'un assistant recouse le corps et fasse sa toilette, disons peut-être dès lundi soir, sinon mardi après-midi.
Didi hocha la tête. Elle continua à retourner la question dans sa tête, mais ne voyait pas d'explication à cette demande. Pour une raison ou une autre, Tessa Léonie voulait qu'on lui rende le corps de son mari dans les plus brefs délais. Il faudrait qu'il se repenche sur cette question parce qu'il devait y avoir une raison. Il y en a toujours une.
Didi se retourna vers sa cellule d'enquête, réclama une bonne nouvelle. Personne n'en avait. Réclama d'autres pistes. Personne n'en avait. Bobby et elle leur firent part de ce qu'ils avaient appris sur la jeunesse mouvementée de Tessa Léonie. Devoir tuer une fois pour se défendre était un coup de malchance. Mais la deuxième fois, cela commençait fort à ressembler à une mauvaise habitude, même si, aux yeux de la justice, seul le troisième délit scellerait définitivement son sort. Didi voulait en savoir davantage sur le meurtre de Thomas O. À la première heure demain matin, Bobby et elle chercheraient qui avait mené l'enquête. Si possible, il prendrait aussi contact avec la famille O et le père de Tessa. Dernière piste, mais non des moindres, il voulait identifier le club de sport de Brian Darby, s'informer de son programme d'entraînement et d'une éventuelle prise de stéroïdes. Il s'était étoffé relativement vite et M. Cœur Tendre était devenu M. Sale Caractère. Ça valait le coup de se renseigner. Ceci posé, Didi nota les prochaines tâches à accomplir et distribua les devoirs. L'équipe vidéo devait terminer son visionnage marathon des images filmées par les caméras. Phil devait terminer les rapports sur les antécédents, faire des recherches sur les biens immobiliers et interroger l'employeur de Brian Darby. Neil était de corvée d'autopsie et devait obtenir un mandat l'autorisant à comparer la chaussure de Brian Darby à la hanche meurtrie de Tessa Léonie. L'équipe carburant jonglerait entre consommation d'essence et cartes de la région de Boston pour délimiter une zone maximale de recherche, cependant que les agents chargés des appels au numéro d'urgence continueraient à suivre les anciennes pistes et à creuser pour trouver de nouvelles informations. Didi voulait les transcriptions des auditions du jour sur son bureau dans l'heure. « Attaquez-vous à la rédaction des rapports, » ordonna-t-elle à son équipe, « et remettez-vous au boulot aux aurores. Tant que Sophie Léonie n'aura pas été retrouvée, pas de repos pour les braves !» Les enquêteurs sortirent un à un. Didi et Bobby s'attardèrent pour faire le point avec le commissaire divisionnaire, puis s'entretenir avec le procureur de Suffolk County. Ni l'un ni l'autre ne s'intéressaient aux détails. Ils voulaient des résultats. En tant que responsable d'enquête, Didi avait donc pour gratifiante mission de les informer qu'elle n'avait pas encore établi les faits qui avaient conduit à la mort de Brian Darby, ni localisé la petite Sophie Léonie. Mais bon, comme pratiquement tous les flics de Boston étaient sur l'affaire, la cellule d'enquête finirait bien par découvrir quelque chose. Un jour, le procureur, qui avait failli avoir une attaque en apprenant que Tessa Léonie avait déjà plaidé la légitime défense dans une précédente affaire, accéda à la requête de Didi et lui accorda davantage de temps pour établir le chef d'inculpation. Étant donné la différence qu'il y avait entre instruire une affaire de violence volontaire ayant entraîné la mort et instruire un dossier d'assassinat, mieux vaudrait avoir plus d'informations, et pour cela, sonder en profondeur la jeunesse mouvementée de Tessa Léonie était nécessaire. Il concentrerait l'attention des médias sur les recherches pour retrouver Sophie et la détournerait des circonstances de la mort de Brian Darby. À 00:33, Didi regagnait enfin son bureau. Son supérieur était satisfait, le procureur calmé, sa cellule d'enquête sur le coup. Ainsi allait la vie. Encore une journée dans une énième affaire à sensation. Les rouages de la justice pénale tournaient inlassablement. Bobby s'assit en face d'elle. Sans un mot, il prit le premier rapport de la pile posée sur son bureau et se mit à lire. Au bout de quelques instants, Didi en fit autant.